France Inter.
Bonjour, bienvenue dans le débat de midi. Et ce matin, nous débattons autour d'un sujet qui divise la France, à savoir l'immigration. Hier, les autorités politiques pensaient qu'il n'y avait de richesse que d'hommes, y compris pour faire la guerre, et qu'il fallait attirer des hommes en France pour renforcer sa capacité militaire et sa production économique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'immigration est devenue une idée quasi universellement combattue, à tel point que Flaubert, revenu parmi nous, pourrait ajouter une entrée à son dictionnaire des idées reçues « Immigration, tonner contre ». C'est ainsi que s'ouvre la note du think tank Terra Nova qui a embrassé le débat public. Ce cabinet, progressiste dans un contexte de vieillissement démographique et de pénurie de main-d'œuvre, encourage l'accueil de 300 000 travailleurs immigrés chaque année jusqu'en 2040-2050. Alors à droite, les politiques sont vent debout contre l'idée. Le pays, selon eux, fait déjà face à une submersion migratoire qui coûte 100 milliards d'euros par an aux Français. La France est-elle trop généreuse? Peut-elle se passer de ses travailleurs immigrés dans la restauration, dans l'hôtellerie? Comment faire primer la raison sur l'émotion et sortir d'une approche comptable pour intégrer au mieux ces personnes? Immigration, richesse ou fardeau? On se pose la question jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Paola Puerari.
Et ce débat sur l'immigration agite de nouveau la classe politique depuis l'annonce du plan budgétaire de François Bayrou. 2 heures à détailler les coupes, une cure draconienne de 44 milliards d'économies, sans jamais évoquer l'immigration. Alors forcément, il n'en fallait pas plus à la droite et à l'extrême droite pour se mettre en ordre de bataille. Il dénonce l'angle mort sur le véritable coût de l'immigration. Et nous, on en débat. Si vous trouvez que le sujet est tabou en France, vous réagissez au 01 45 24 7000 sur le WhatsApp de France Inter, ou au contraire, eh bien, si vous trouvez qu'il est instrumentalisé, vous réagissez aussi au 01 45 24 7000. Quelle est votre réalité, par exemple, si vous travaillez dans la restauration, dans l'hôtellerie? On attend vos réactions. Avec nous autour de la table pour débattre, Sabrina Agresti-Roubache, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio, ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté.
Et de la ville.
Hakim El-Karaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du cabinet de conseil Volantia, chercheur associé au think tank progressiste Terra Nova, qui est proche du Parti Socialiste. Et vous êtes l'auteur de cette note qui prône l'accueil de travailleurs immigrés en nombre si la France veut pérenniser son modèle social. Et face à vous, il y a Nicolas Pouvreau-Monty, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est financé entre autres par le milliardaire et mécène Pierre-Édouard Sterrin, très conservateur, on peut le dire. Et vous avez écrit cette tribune dans Le Figaro, comment l'immigration coûte 3,4% du PIB par an à la France. Alors on va revenir effectivement sur l'immigration et son coût réel ou fantasmé. Mais d'abord, simplement une question. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, ces débats ont du mal à émerger de façon apaisée, dépassionnée? Est-ce que les partis politiques sont plutôt mal à l'aise avec ça, Hakim El-Karaoui?
Ah, ils sont mal à l'aise, c'est pas nouveau. Ils sont mal à l'aise depuis que le sujet est devenu quasiment l'apanage du Front National. Et ce qui est très frappant au cours des années, des décennies, c'est que petit à petit, plus personne n'en a parlé. Au début, la gauche disait que c'était formidable l'immigration, c'était l'ouverture, etc. Et puis, quand il y a un certain nombre de problèmes qui sont apparus et quand le Front National s'en est emparé, ben, en fait, tout le monde s'est tu. Sauf pour dire, effectivement, c'est devenu un lieu commun, l'immigration, il faut être contre, et voilà pourquoi. Et nous, ce qu'on fait, je précise juste, le travail qu'on a fait, c'est pas pour encourager l'immigration, c'est pour dire, ne vous méprenez pas, l'immigration va continuer. Et c'est pas 300 000 travailleurs immigrés, ce qu'on a calculé, c'est 300 000 entrées. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui travaillent, parce qu'il y a des familles, parce que voilà. Bon.
300 000 entrées.
Voilà, d'accord. Et ça fait plutôt 140 000 nouveaux travailleurs, apport de travail extérieur. Donc c'est très bien si on peut en parler. C'est encore mieux si on peut effectivement regarder l'ensemble du spectre, les problèmes. C'est très important de parler des problèmes, mais aussi les solutions, et puis ce que doivent faire les immigrés, mais aussi ce que doit faire la communauté nationale, notamment la politique d'intégration, qui est très très faible.
Nicolas Pouvreau-Monti, est-ce que aujourd'hui il n'y a que la droite et l'extrême droite qui s'emparent de ces sujets de migratoires, si je puis dire, et est-ce que vous pensez qu'ils s'en instrumentalisent quelque peu, puisque effectivement ils cherchent de manière opportuniste?
Il me semble qu'il y a deux niveaux de lecture. Les sujets d'immigration restent à n'en pas douter très marqués politiquement aujourd'hui, même si on voit une part croissante de ce qu'on appelle le bloc central, par exemple, prendre des positions que d'aucuns pourraient qualifier de restrictionnistes, alors que d'autres parties du bloc central prennent d'autres positions. Mais en tout cas, on reste à droite et au centre droit, là où ailleurs en Europe, le sujet de l'immigration a été saisi par des partis de gauche. On a beaucoup parlé du modèle social-démocrate danois depuis quelques années, mais on pourrait évoquer d'autres gauches européennes qui sont en train de se réaligner sur ce sujet. Je pense notamment aux travaillistes britanniques avec Keir Starmer. En vérité, le sujet de l'immigration, en France comme chez nos voisins, c'est le sujet sur lequel se recomposent les paysages politiques. Et dans le contexte français, il faut dire qu'il y a un décalage assez sidérant entre, d'une part, le caractère effectivement très marqué, très clivant de la question dans le débat public, dans le débat politique, dans le commentaire médiatique d'une part, et d'autre part, les aspirations globalement consensuelles de l'opinion telles que mesurées par les enquêtes qui ont lieu à peu près maintenant tous les mois sur le sujet. Quand vous interrogez les sondés, vous vous rendez compte qu'on a maintenant toujours à peu près entre 2/3 et les 3/4 des sondés qui estiment que les niveaux d'immigration reçus en France sont trop élevés. C'est évidemment 95% de l'électorat du RN, mais c'est aussi 2/3 de l'électorat macroniste, c'est aussi une petite moitié de l'électorat de gauche d'aujourd'hui. Et donc le sujet n'a pas vocation à rester éternellement clivant.
Sabrina Gresti-Roubache, vous qui avez été au gouvernement, est-ce que vous trouvez que, je ne sais pas, François Bayrou, lorsqu'il a parlé de son plan budgétaire, il n'a pas prononcé ce mot d'immigration? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça explique un malaise? Ou au contraire, ça n'a rien à voir dans le débat?
Non, ça a forcément un peu à voir dans le débat. Mais moi, ce que je vois, donc, j'avais en charge l'accueil des réfugiés, notamment sur le volet citoyenneté, l'accueil des réfugiés, les demandeurs d'asile, l'intégration, l'apprentissage du français. Ce que je constate, c'est qu'on oublie quelque chose dans le débat public, et ça manque, c'est comment aussi l'immigration est perçue par les immigrés eux-mêmes. Moi, j'avais posé un pavé dans la mare. Moi, je m'étais faite évidemment massacrer, mais je pense qu'on y a un sujet de perception face à la réalité. J'ai évidemment lu la note de Terra Nova, très très intéressante sur le ressenti et les vrais chiffres, les besoins que nous avons sur les métiers en tension. Juste une chose. Bon, donc je pense que, pour répondre à votre question, que François Bayrou, le Premier ministre, a eu tort de pas, alors que j'ai trouvé plutôt clair ce qu'il avait proposé, mais pas de le poser comme est-ce que ça coûte ou pas. C'est quel type d'immigration on voudrait avoir. C'est un vrai sujet dans toutes les familles de partout. Et quand je vous dis ça par rapport aux familles elles-mêmes issues de l'immigration, c'est un sujet. C'est-à-dire que quelle est l'image que les immigrés, vous savez, renvoie des autres. Le dernier arrivé ferme la porte. J'ai rien inventé, c'est comme ça que ça marche. Mes parents, moi je suis née dans un quartier très populaire de Marseille. Mes parents, doucement, sont partis parce qu'ils ont vu arriver des gens qui ne leur ressemblaient pas. Donc, et ça ne fait pas des méchants. Donc la réalité, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, mais la réalité, c'est qu'on a oublié les fondamentaux. Quand on a voulu faire les métiers en tension, donc dire on va devoir régulariser et permettre aux travailleurs irréguliers eux-mêmes de déposer leur propre régularisation et non plus de dépendre du chef d'entreprise. Tout ça, ce sont des avancées. Mais on a oublié de parler d'une chose, l'apprentissage du français. Et c'est quoi être français? Comment on devient citoyen? Comment on en fait des citoyens à part entière? Donc, mais à chaque fois qu'on a voulu en parler.
On va y venir, et effectivement, ce sont de nombreuses questions. Mais dans ces 44 milliards d'économies, effectivement, est-ce qu'il y avait certaines économies à faire sur la politique migratoire, monsieur de la Fondation de Ranova?
La politique migratoire, c'est d'abord une politique de contrôle et d'entrave. Donc, je pense que le budget sécurité en global, il augmente. Donc, l'argent alloué au contrôle de l'immigration illégale,
ça va augmenter.
Voilà. La deuxième chose, c'est par exemple, il y a vous savez, ce fétiche de l'AME, l'aide médicale d'État.
Bien sûr.
Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs dit qu'il faut absolument remettre en cause l'AME, passer aux soins d'urgence, etc. C'est intéressant d'abord parce que ça coûte 1,2 milliard. parce qu'il y a eu 4, 5, 6 rapports sur le sujet, parce qu'elle a été rognée, parce que un des conseillers même du ministre de l'Intérieur, Patrick Stefanini, a fait un rapport l'an
très
dernier avec un ancien ministre de la Santé socialiste, qui concluait qu'en gros on était à l'os. Et qu'il y avait une stratégie de santé publique qui consistait à essayer de soigner et de prévenir, plutôt que d'attendre que tous les immigrés, y compris les sans-papiers, se retrouvent au guichet des hôpitaux.
En soins d'urgence.
En soins d'urgence, qui à la fin coûtera beaucoup plus cher. Et on fantasme, y compris parce que le Rassemblement National dit comment on baisse les coûts, et ben le coût de l'immigration. Alors, on va en parler, ça coûte pas du tout 100 milliards d'euros, ça c'est complètement faux. Mais derrière, c'est l'idée qu'ils ont quelque chose que nous on n'a pas. Et je pense que c'est pas du tout une discussion budgétaire, c'est une question de perception, de sentiment, c'est aussi une question de ressentiment. Et donc c'est très important de pouvoir mettre les vrais chiffres sur la table, sachant qu'il y a un coût lié à l'immigration, mais il y a aussi, on l'oublie de temps en temps, des recettes. Et puis enfin, il y a des problèmes, et moi je pense qu'il faut parler des problèmes, il faut trouver des solutions aux problèmes. Et quand j'entends les uns et les autres, notamment à droite et à l'extrême droite, j'ai l'impression que leur solution, c'est ce serait quand même mieux s'ils n'étaient pas là. Peut-être,
sauf que je l'ai dit tout à l'heure, juste une petite digression, c'est que quand j'arrive au ministère de l'Intérieur avec ce volet citoyenneté en responsabilité, parmi les députés qui me demandaient le plus de régularisation, croyez-moi, ils n'étaient pas très à gauche.
Plutôt au Rassemblement National.
Plutôt au Rassemblement National et à droite. Ouais.
Nicolas Pouvreau-Monti, qu'est-ce que vous répondez à monsieur Hakim El-Khaoui?
Plusieurs choses. D'abord, effectivement, la politique migratoire, c'est une politique de sécurité, mais pas seulement. Aujourd'hui, les deux tiers du budget immigration, asile, intégration de l'État sont consacrés à l'accueil, à l'hébergement et au versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile. Donc, dans le budget immigration, au sens strict, la mission budgétaire de l'État, ce qui coûte aujourd'hui le plus, c'est cette dimension de l'asile. L'asile, qui est le canal d'immigration en plus forte croissance, le nombre de bénéficiaires de l'asile en France a triplé en 10 ans.
Sachant que l'année dernière, c'était quand même les Ukrainiens qui étaient numéro un.
Oui,
et non
alors,
plus. Non, mais voilà.
Qui était déjà sur place, mais qui anticipe, vous savez, la fin de leur statut de protection
temporaire. Je connais ça par cœur, mais par contre. C'est bien de préciser que c'est quand même les Ukrainiens maintenant qui sont les premiers demandeurs d'asile.
Et maintenant, parmi les premières nationalités bénéficiaires, on trouve l'Afghanistan qui est en tête, un ensemble de pays d'Afrique subsaharienne.
Troisième maintenant.
Ça n'est loin de n'être qu'une politique sécuritaire. Sur la question des médicales d'État, effectivement, c'est l'épaisseur du trait, dans un budget 1,2 milliard d'euros, sachant qu'il existe une dizaine d'autres dispositifs de soins dont bénéficient les clandestins et qui rapprochent la facture plutôt de 2 milliards, ce qui reste l'épaisseur du trait. Mais il y a deux choses là-dessus. La première, c'est la dynamique, c'est-à-dire que le nombre de bénéficiaires de l'AME a triplé en 20 ans, ce qui atteste de la dynamique plus globale de l'immigration clandestine. Il y a le caractère relativement singulier de l'AME en Europe, par le caractère extrêmement large du panier de soins qui est pris en charge à 100%. Personne ne propose évidemment de remettre en cause les soins de prophylaxie, les soins qui visent à vacciner, à prévenir l'apparition de maladies qui par ailleurs concernent la population générale, puisque les maladies ne font pas de distinction selon le statut administratif.
Les poneys qui ne sont pas vaccinés, le trois quarts des
L'enjeu de la couverture vaccinale est un sujet important pour les étrangers comme pour les autres.
En période épidémique de grippe, sont quand même aux trois quarts remplis de gens qui ne sont pas vaccinés malgré...
La question qui se pose avec l'AME, oui, c'est sans doute en partie une question d'équité, qui n'est pas une question d'équité entre Français et étrangers, mais une question d'équité entre cotisants et non-cotisants. C'est-à-dire que les étrangers réguliers qui cotisent à la sécurité sociale ont les mêmes droits à la sécurité sociale que les Français. Et sur la question des 100 milliards d'euros, je me permets de répondre. Ce que nous disons dans l'étude qui effectivement a été recensée par Le Figaro, c'est que le plus faible taux d'emploi de la première génération issue de l'immigration et de la deuxième génération issue de l'immigration en France, qui est l'un des taux d'emploi parmi les plus faibles d'Europe, représente un manque à gagner, non pas pour les finances publiques, mais pour l'économie française, de l'ordre de 3,4 points de PIB par an. Donc ça fait effectivement 100 milliards d'euros.
Effectivement, on a l'impression que dans la bouche des partis à droite et d'extrême droite, l'immigration en général, c'est un peu, entre guillemets, si j'avais à schématiser, la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que si on s'attaquait à ça, effectivement, on gagnerait des milliards d'euros. En revanche, on se demande effectivement, quand ils arrivent au pouvoir, comment ils vont réagir. Alors, par exemple, on voit bien la réalité en Italie. Giorgia Meloni, qui avait fait campagne contre l'immigration, qui promettait de fermer les frontières, aura finalement accueilli 1 million d'étrangers non européens, dont 500 000 d'ici 2028. Est-ce que ce débat n'est pas instrumentalisé, Sabrina?
Mais évidemment que oui, puisque dans la loi, justement, CIAI, D'accord, la dernière loi passée par Gérald Darmanin, et donc j'étais souvent au banc avec lui, comme on dit. Ce que j'avais essayé de porter dans un article qui avait été censuré en commission mixte paritaire, c'était permettre deux choses. C'était permettre aux demandeurs d'asile de travailler dès l'obtention de leur titre par l'OFPRA ou par l'OFI, mm-hmm. et de dire... On doit leur permettre de pouvoir travailler parce que quand ils viennent pour s'intégrer, évidemment, le travail reste le lieu d'intégration par excellence. Mmh. Deuxième chose, l'élévation, bien sûr, du niveau de français de B2 à A2, donc c'est-à-dire augmenter le niveau de français en termes d'exigence. Bien Mais sûr. Troisième chose, impliquer les employeurs sur l'apprentissage du français pour leurs employés.
Hakim El Karaoui, est-ce qu'on va pouvoir se passer de cette immigration en France? Je reprends l'exemple italien. Au total, en 5 ans, la coalition au pouvoir aura fait venir plus d'1 million de travailleurs. Et c'est aussi parce que le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances en Italie. C'est ça la réalité aussi.
Ce qui est le cas en France aussi pour la première fois cette année. Alors, la situation démographique française n'a rien à voir avec la situation démographique italienne. Elle est vraiment bien pire en Italie. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Italie, il y a l'Espagne aussi. L'Espagne résout le problème de la même manière avec une immigration massive qui vient d'Amérique latine et des immigrés qui sont naturalisés espagnols en 2 ans. Les Allemands font pareil depuis très longtemps. La France est moins concernée parce que sa démographie a été historiquement meilleure, même si elle a considérablement baissé depuis, en fait, progressivement depuis 15 ans, puisqu'on a perdu. Il y avait 830 000 naissances en 2010, on est à 660 000
par an. On en a perdu 100 000.
Et depuis 2017, on a perdu 110 000 naissances. Donc, le sujet, la baisse de la démographie, elle est vraiment devant nous. En Italie, elle est déjà là. Et donc, effectivement, Giorgia Meloni, qui avait fait campagne contre l'immigration, au bout de 6 mois, le patronat italien lui a dit...
Est allé la voir. Oui.
On a besoin de 800 000 régularisations, ils ont eu 450 000. Et puis là, très récemment, ils ont ajouté 500 000 supplémentaires. Vous parliez du Danemark tout à l'heure. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la question de l'immigration de travail revient tout en haut de l'agenda politique. Mmh. Et c'est le sujet de l'asile qui a énormément augmenté, c'est vrai. C'est le sujet de l'asile qui est remis en cause. Donc au Danemark, je regardais les chiffres, l'an dernier, il y a eu 84 000 entrées. Il y a 6 millions d'habitants au Danemark. Donc c'est un équivalent de 900 000 nouveaux entrées en France. En France, on est à 300 000. Donc moi, je veux bien qu'on prenne le Danemark comme exemple. Ça veut dire un triplement de l'immigration. Donc le sujet, ce qui est en train de se passer, c'est que la transformation de la démographie européenne, la France étant plutôt la moins concernée, fait que la question de l'immigration de travail revient à l'agenda. Et donc, le sujet maintenant, c'est comment on va organiser ça et comment on va transférer des demandeurs d'asile, sachant qu'il y a un abus de l'asile, ce qui est évident, vers une immigration de travail plus contrôlée, plus organisée.
Je donne la parole aux auditeurs. Michel nous dit, je pense qu'avant de parler du coût de l'immigration, on devrait parler des apports indispensables de l'immigration. Nickel nous dit que tous les immigrés s'arrêtent de travailler 48 heures et on verra s'ils sont utiles ou non. Et Isabelle témoigne, j'habite dans le Val-de-Loire où la quasi-totalité de la cueillette se fait par des travailleurs étrangers. Ça va être la suite de notre débat justement. Y a-t-il des métiers qui sont désertés par les Français? Je pense par exemple à la plonge, au métier de saisonnier, à la cueillette. En Île-de-France, 50% des cuisiniers et 40% des employés de l'hôtellerie sont des immigrés alors qu'ils peinent à recruter. Certains patrons s'inquiètent d'une perspective de politique migratoire plus stricte, quand d'autres pensent que la restauration n'a pas du tout besoin d'immigration. On va être en ligne avec Stéphane Manigold qui va pousser son coup de gueule parce que pour lui, eh bien non, la restauration n'a pas forcément besoin d'immigration. Juste après, Philippe Catherine, une chambre à moi.
Une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara iligère. Un ara iligère. C'est un perroquet tout vert. Aussi vert que mon jardin, devant ma chambre, à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone, sans fatiguer personne. Je jouerai mon saxophone, quand je joue c'est pour personne. C'est pour personne.
Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Quand je joue du saxophone, quand je joue c'est pour personne. Je voudrais une chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illigère. Je voudrais une chambre à moi.
France Inter. Le débat de midi.
Midi 25 sur France Inter, on continue à débattre de l'avenir des politiques de migration, des différents plans pour la France avec deux think tanks assez opposés, Hakim El-Karaoui de Terra Nova, Nicolas Pouvreau-Monti, le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, et avec nous également Sabrina Agresti-Rouache, ancienne secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Et vous êtes très nombreux, chers auditeurs, et merci à réagir sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000. Quentin nous dit « Enfin, un débat sur l'aspect économique de l'immigration. Le discours de droite et notamment celui du Rassemblement National se concentre uniquement sur l'aspect sécuritaire et religieux. Valérie nous dit, pour avoir travaillé des années dans le transport routier sans immigration, pas de chauffeur, pas de livreur, pas de magasinier, hein, pas d'immigrés, pas de livraison. Et enfin, Yolande nous dit, quelle hypocrisie de cette extrême droite et droite qui s'occupe des personnes âgées dans les EHPAD qui travaillent sur les routes et dans les métiers les plus pénibles. C'est aussi l'avis de Laure qui s'est enregistrée sur le WhatsApp de l'émission.
Je suis bénévole au Resto du Cœur et tout ce que je constate, c'est vraiment l'extrême précarité de ces gens qui travaillent dans des conditions très difficiles, qui sont toujours dans des emplois que les Français ne veulent pas et qui sont indispensables pour notre société, notamment pour les personnes âgées.
Merci Laurence pour ce témoignage. N'hésitez pas vous aussi à vous enregistrer sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. On ouvre le débat avec un chiffre. En Ile-de-France, un cuisinier sur deux est immigré. Et nous sommes en ligne avec un restaurateur, Stéphane Medigold, qui pense au contraire eh bien que la restauration n'a pas besoin d'immigration. Bonjour Stéphane Medigold.
Bonjour Paola, bonjour à vos invités également.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe Éclore, propriétaire de plusieurs restaurants parisiens. Et dans une tribune au Figaro, vous alliez à l'encontre de cette idée qui semble acquise dans l'opinion. Les Français ne voudraient plus travailler dans les restaurants, faire la plonge ou encore le ménage dans les hôtels. Quelle est votre proposition et pourquoi est-ce que vous pensez que la France finalement n'a pas besoin de ces travailleurs immigrés ?
Ma tribune peut sembler à contre-courant, mais en réalité, elle est profondément humaniste. Parce que moi, je refuse de cautionner en fait, un système qui manque de courage politique, entretient la précarité, condamne des milliers de personnes à l'inutilité. Ce que je défends, c'est moi un modèle qui redonne de la valeur au travail, du pouvoir d'achat réel aux salariés, et pas simplement des mots, et une vraie dignité à toutes celles et ceux qui veulent s'en sortir. Alors, il n'y a pas, pour moi, de fatalité dans la longue durée du chômage. Et je vais vous prendre des chiffres. En fait, c'est pour ça que je vous remercie, chère Paola, de me donner la parole. Et en plus, sur France Inter, moi, je suis très content, en tant que patron, de m'exprimer sur France Inter. Parce que quand 32 000 personnes, rien que dans mon secteur, sont indemnisées à Paris dans la restauration et des dizaines de milliers d'autres dans des métiers de l'artisanat, la question n'est pas, au fond, où sont ces bras ? Mais pourquoi ils ne viennent pas chez nous ? Pourquoi ils ne viennent pas travailler ? Il n'y a pas de fatalité à être éloigné de l'emploi. Il y a un modèle qui n'incite pas assez, qui décourage et qui isole. Et pour moi, justement, l'immigration ne doit pas servir à entretenir un système inégalitaire. Ce n'est pas, pour moi, un rejet de l'autre, en fait, c'est un refus de déléguer de la précarité aux plus fragiles. Moi, personnellement, ça me fait presque vomir que d'entendre des personnes dire « il faut faire venir l'immigration massivement pour faire travailler celles et ceux » qu'ils ne veulent pas exercer ces métiers. On est en 2025 et on arrive encore à penser comme
Donc,
cela.
Donc très concrètement, quand vous dites courage politique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Déjà, quand vous avez rien que sur mon secteur, sur le plan national, après certains vont dire oui, mais régionalement, je peux vous donner tous les chiffres, région par région, ville par ville. Rien que dans le secteur de la restauration, vous avez plus de 100 000 cuisiniers et serveurs disponibles immédiatement payés par France Travail, donc les entreprises qui cotisent seules, je le rappelle, à l'assurance chômage. Les salariés ne payent plus l'assurance chômage depuis 2019, seules les entreprises cotisent. Vous avez plus de 100 000 personnes. Vous pouvez faire x2 sur ce chiffre. Pourquoi ? Parce qu'une personne sur deux ne veut pas être possiblement appelée par un employeur. Mmh. Eh bien, moi, je considère que
ne veut pas être appelée par un employeur ou n'a plus envie de faire ce genre de métier, Stéphane Manigold.
Mais qu'il n'ait plus envie, ça c'est une chose.
Bah oui,
mais
dans ce cas-là,
vous avez sur France Travail la possibilité de faire des formations, de vous déclarer en formation passerelle. Or, moi, les 100 000 que je vous cite, ce sont des personnes qui sont bien identifiées, qui veulent travailler dans ce secteur. Ce n'est pas des personnes qui ne veulent plus travailler. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin avait repris le jour même de la sortie de ma tribune, il avait fait le constat en disant « mais attendez, on a quand même un sujet ». On a 80 secteurs en tension, donc qui ouvrent droit à une immigration plus facilement. Eh bien, on ne peut pas considérer décemment que si mon secteur est en tension, on continue à protéger pendant 18 mois des personnes à rester à la maison pour plein de raisons.
Et alors, Stéphane Manigold, restez avec nous parce que je crois que Sabrina Gristi-Roubache a envie de vous répondre. Vous restez en ligne avec nous.
Non, mais juste dire que lorsqu'on a voulu toucher à la réforme, donc faire une réforme de l'assurance chômage, il me semble que Stéphane Manigold a dû voir comme moi la levée de boucliers. Nous avions une majorité relative, maintenant carrément plus de majorité nulle part. Mais ça répond toujours pas à la question. Comment est-ce que tu donnes envie aux jeunes et aux moins jeunes de venir sur ces métiers difficiles. Mon père était maçon, ma mère garde-malade. J'ai une de mes petites sœurs qui est aide-soignante. Je vous garantis qu'à l'hôpital à Marseille, avant de pouvoir recruter des jeunes sur des métiers d'aide-soignant à l'hôpital public, je parle, c'est la croix et la bannière, pour pas dire autre chose. Donc ce que peut-être Stéphane Manigold, et je sais qu'il m'entend, a oublié de dire, c'est comment est-ce qu'on redonne envie, comment est-ce qu'on attire vers ces métiers dits un petit peu difficiles, même voire beaucoup difficiles, notre jeunesse, et aussi comment est-ce qu'on accompagne sur les 55-64 ans, les seniors, comme on dit, dans ces métiers-là. Donc la
Caroline,
réalité, c'est que ça
et
répond.
Et Caroline pose une question
pas.
Aussi, elle dit, elle semble mais rejoindre Stéphane Manigold en disant si on payait mieux les travailleurs français, peut-être qu'ils prendraient tous ces postes qui sont disponibles, n'aurait-on pas moins de chômage et moins d'immigration, Hakim El Karaoui ?
Peut-être. Si vous voulez payer votre steak frites 20, 30, 40, 50% plus cher, effectivement, il y a un ajustement sur le marché du travail. Mm-hmm. C'est l'histoire de l'immigration de travail depuis toujours, partout. Les immigrés acceptent une forme de déclassement.
Quel que soit le niveau d'études.
Et voilà, ils le font aussi dans les études médicales. Ils font tourner l'hôpital public. Parce que c'est un sujet aujourd'hui sur le bas de la pyramide socio-professionnelle, mais aussi tout en haut. Moi, j'entends les gens qui disent qu'il faut arrêter l'immigration. Bon, 17% des médecins spécialistes en France sont immigrés. Et 10% des médecins spécialistes viennent de trois pays arabes, l'Algérie, la Tunisie et la Syrie. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit ce que disait Édouard Philippe, d'ailleurs. Moi, il disait, j'ai jamais entendu personne dire, quand j'ai un médecin immigré en face de moi, j'ai envie de partir, j'ai envie qu'il rentre chez lui. C'est une réalité démographique. On peut s'en plaindre. Moi, je pense qu'il faut partir de la réalité et pas d'un fantasme qui est une France sans immigrés. C'est pas la réalité et ce sera encore moins le cas demain. Donc, essayons d'organiser mieux l'immigration, essayons d'organiser l'intégration, les conditions d'accueil, évitons par exemple la concentration des immigrés nouveaux tous au même endroit, et puis mettons aussi de l'action public. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de force de l'ordre dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigrés. Il y a très peu d'enseignants. Il n'y a pas de médecins du tout. Et donc, il faut avoir une stratégie. On n'a pas de stratégie. Pourquoi ? Parce qu'on vit avec l'idée qu'on ne veut pas des immigrés. Et donc, puisqu'on n'en veut pas, il n'y en a pas. Et puisqu'il n'y en a pas, c'est pas la peine d'avoir une politique d'intégration. Tout ça est absurde. La réalité, vos auditeurs l'entendent, la réalité, c'est que les immigrés travaillent, certains pas. Il y a un problème avec une partie d'entre eux, je l'ai par ailleurs quantifié avec un autre rapport qui s'appelle l'intégration des enfants d'immigrés, succès silencieux, échec criant. Il y a un problème avec une minorité, il faut traiter cette minorité, c'est très urgent. Sauf qu'aujourd'hui, on ne fait rien.
Alors Stéphane Manigold, restaurateur, une réponse effectivement à Hakim El Karaoui qui vous dit, attendez, oui effectivement, le coût du travail, on pourrait embaucher, peut-être qu'effectivement les Français auraient plus tendance à aller vers la restauration si c'était beaucoup mieux payé, mais le prix de l'assiette du Français augmenterait aussi, c'est ça la réalité Stéphane Manigold ?
Non mais c'est faux, pardon, voilà, désolé Hakim, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'en fait on a, là vous faites un peu de littérature, mais il n'y a pas de fond. La vérité, c'est
non, c'est pas la littérature. Il y a plein de fonds, monsieur. Il y a plein de fonds.
Moi, tous les mois, je paye 180 salariés. Et vous voyez, je viens de payer mon URSSAF. Donc, le coût du travail, a priori, je sais ce que c'est. Donc, le coût du travail, en fait, il asphyxie les chefs d'entreprise. Et celles et ceux qui nous écoutent et qui emploient.
C'est pas à cause de l'immigration.
Qui emploient. Mais justement. Donc, moi, je vous dis, baissez le coût du travail. Okay.
Vous êtes prêt à baisser les retraites, monsieur? Vous êtes prêt à baisser les pensions ou pas? Les charges, c'est essentiellement ça. Le coût du travail, c'est essentiellement ça.
Mais non, 40 milliards, c'est l'assurance chômage, ça coûte plus de 40 milliards par an. Mm-hmm. Non, vous avez un secteur en tension. Moi, je vais prendre des chiffres, je vais pas faire de la littérature. Les chiffres, c'est 40 milliards, c'est le coût du chômage annuel. Vous baissez de 10%, vous économisez 4 milliards. Et donc, les retraites, rien à voir là-dedans. En fait, c'est juste une question de mieux employer l'argent public.
Dans le système social.
Pardon, je termine. Moi, je suis un enfant du prix de la solidarité, donc vous ne me prendrez pas à défaut. Je viens de l'adage, j'ai grandi dans les quartiers, je sais ce que c'est que de bouffer des cailloux toute la journée. Moi, je veux juste un moment qu'on sorte de cette dignité. Je sais aussi ce que c'est que de sortir. Et l'escalier social, aujourd'hui en France, il est en panne. Il faut donner des perspectives. L'escalier social, il marche simplement pour un État qui est obèse, un État qui dépense, le gap, etc. Tout ça, c'est une gabegie financière. L'État ne sait pas se remettre en cause. Et
le
d'ailleurs,
gap,
ça marche, puisque vous-même, Hakim, vous dites, si vous voulez payer vos steaks frites plus cher, vous avez qu'à baisser le coût du travail. Okay. C'est faux.
Entendu, Stéphane Manigol. Merci d'avoir été avec nous pour faire progresser le débat. Une réponse de Nicolas Pauvremonti. Vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la France a besoin de cette immigration du travail dans la restauration, l'hôtellerie? Mais on aurait pu citer d'autres métiers, 80 métiers en tension. On parle de couvreurs, de bouchers, d'agriculteurs, de médecins, l'informatique.
15% des cadres informatiques.
Est-ce qu'on doit appeler cette immigration parce que les Français ne veulent pas y aller? Qu'est-ce que vous pensez de ce manque soi-disant de courage politique auquel fait référence Stéphane Manigol?
Je pense que Stéphane Manigol met le point sur un sujet important qui est qu'on a en France 3 millions de chômeurs, plus 2 millions de personnes qui sont dans le halo du chômage et d'inactivité. Les remettre sur le marché de l'emploi,
mais
ça n'est pas simple.
Mais volontairement ou pas volontairement?
Alors, il y a de tout. C'est-à-dire que, typiquement, dans le halo du chômage, il y a des chômeurs découragés, il y a des chômeurs qui approchent de 60 ans et qui ne cherchent plus d'emploi. Cette réalité du sous-emploi et de la difficulté d'intégration sur le marché du travail, elle est aujourd'hui spécialement marquée dans l'immigration reçue en France. Je veux bien qu'on prenne les exemples étrangers ou les scénarios théoriques où l'immigration serait largement en emploi. Il n'en demeure pas moins que en France, le taux d'emploi des immigrés est en moyenne près de 10 points inférieur à celui des personnes sans ascendance migratoire, que le taux d'emploi des immigrés extra-européens récents est de 43%, ça veut dire qu'on a 43% des immigrés extra-européens arrivés sur les cinq dernières années qui occupent effectivement un emploi. Et cette situation de sous-emploi de l'immigration en France, l'accélération de l'immigration, elle concerne toute l'Europe. Mais cette situation-là est spécifique et elle a des implications sur un ensemble de domaines. On pourra parler du budget, mais on pourrait aussi parler des dispositifs sociaux, de solidarité. Juste un chiffre peut-être, le taux de pauvreté en France des immigrés est 3 fois supérieur à celui de la population générale, et ça a évidemment des implications sociales et fiscales qui sont gigantesques.
Et ça va être l'objet de la suite de notre débat. On va essayer de sortir de cette logique comptable, de donner la parole à des associations qui se battent pour une meilleure politique d'intégration, de formation. La France est-elle vraiment une terre d'accueil? On en débat juste après. Si Pierre, Wet Leg. I tend to get lost in your eyes. I took a breath, jumped off the cliff because you told me to. Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love or suicide? Is it love?
Call it triple nine, give me
débat de midi, Paola Puerari, sur France Inter.
C'est tout mon drame.
Et on continue à discuter, à débattre dans ce studio. Il est midi 40, si vous nous rejoignez au débat de midi sur France Inter. On parle de l'immigration, du coût de l'immigration, mais on essaye aussi de sortir d'une logique comptable. Et vous êtes très nombreux, chers auditeurs, à nous écrire au 01 45 24 7000. Denis nous dit « Je ne suis pas contre l'immigration qui occupe des emplois souvent refusés par les Français. » Et Félix nous dit « Arrêtons, nous avons des taux de chômage et épouvantable, environ 8% au niveau national et 25 à 30% chez certains jeunes. Et on nous dit en plus qu'il nous faut des immigrés. Une partie significative de ces immigrés n'ont pas de travail. Arrêtons de se raconter des histoires. Et nous avons reçu une note vocale de Flora.
Il y a 6 ans, j'ai créé l'association et l'organisme de formation Weavers France. Nous agissons pour faciliter l'inclusion des personnes exilées. Notre défi à tous, c'est le défi de mieux accueillir. Être dans une hospitalité active d'inclusion des personnes exilées qui leur permettront de retrouver un emploi beaucoup plus facilement. C'est également faciliter l'ensemble du schéma administratif qui les met dans des situations d'extrême précarité. Je peux vous parler de Fanny qui vient du Pérou, qui a suivi une formation en hôtellerie-restauration et qui est maintenant chef de partie au Comptoir Phoenix, un restaurant de Lyon. Je peux vous parler d'Alpha du Mali qui a suivi l'une de nos formations et qui est maintenant chef de rang au Novotel Annecy.
Merci Flora, n'hésitez pas à réagir, à vous enregistrer, à faire entendre votre voix pour ce débat au 01 45 24 7000. Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Est-ce que ce n'est pas là le sujet finalement de mener ces personnes à l'emploi plus rapidement, de façon active, c'est-à-dire vraiment une intégration active comme le fait l'association Weavers, qui est une association, un organisme de formation qui facilite le recrutement de personnes exilées.
Ce qui est certain, c'est que l'emploi est une étape indispensable, pour employer un euphémisme, dans le processus d'intégration. Ça, c'est absolument incontestable. Mais quand on se pose la question de l'intégration, qui doit se poser, et notamment de l'intégration pour le travail, c'est qu'on s'est déjà posé la question de la politique migratoire, c'est-à-dire le fait de savoir qui entre, qui se maintient sur le territoire. Et de ce point de vue-là, pour ce qui est de l'équilibre économique et budgétaire global de l'immigration en France, la question qui se pose est bien celle du profil de l'immigration reçue en France. Vous voyez, parmi l'ensemble des titres de séjour qu'on a accordés pour la première fois l'an dernier, on en a eu 1 sur 6, pour motif économique. Sur le total des titres en cours de validité, c'est 1 titre sur 10. Mmh. Si vous prenez tous les immigrés entrés en France en 2023, vous vous rendez compte que début 2024, on en a seulement 1 sur 3 qui occupe effectivement un emploi. Il y a plusieurs raisons à ça, parce qu'on a une immigration parmi les plus familiales d'Europe, par exemple, hein, les plus largement pour motif familial, parce qu'on a aussi une immigration qui est globalement peu qualifiée. Alors, on parle souvent des médecins étrangers, évidemment, ils existent. On peut juger que ce n'est pas très sain sur le long terme qu'un pays ne soit plus en mesure de former ses propres médecins. Mais enfin, la réalité, c'est que si on regarde, par exemple, l'ensemble des étrangers extra-européens en France, on en a presque la moitié, 42%, et qui n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau brevet CEP. Donc, immigration moins en emploi, et quand elle est en emploi, effectivement, immigration plus souvent présente sur un certain nombre de métiers peu qualifiés et donc peu rémunérés.
La réponse du cabinet progressiste Terra Nova.
Alors, Hakim El Karaoui. Vous ne l'avez pas indiqué dans ma présentation, j'ai été 3 ans la plume de Jean-Pierre Raffarin, qui n'était pas, à mes connaissances, quelqu'un d'extrême gauche.
Non. Donc, pour vous, c'est extrême gauche ?
Non, mais je veux dire, c'est pas que des gens. Enfin, comment dire, la droite a énormément changé sur ce terrain-là, elle s'est rapprochée de l'extrême droite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les projets sur l'immigration de l'extrême droite et de la droite version LR sont les mêmes.
Ce ne sont pas des débats droite-gauche pour vous, débats de la raison contre que l'émotion. Mais malheureusement, pour les auditeurs qui nous rejoignent à 1044, je suis obligée un peu de rappeler les voix.
Progressiste, moi, je ne suis pas du tout un militant du Parti Socialiste. Je n'ai pas changé d'avis et de doctrine depuis que j'étais à Matignon. Deux choses là-dessus. Les motifs économiques, on regarde effectivement, il y a peu de motifs économiques dans les entrées. Mais en fait, c'est juste oublier que les gens qui rentrent au titre des études et qui restent ou au titre de l'immigration pour leur regroupement familial, en fait, après, ils travaillent.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est bien eux qu'on retrouve dans tous les emplois qu'on a évoqués. Et donc, le sujet, c'est que comme on a un discours anti-immigré, en fait, on ne voit pas que ce serait beaucoup plus intelligent d'avoir une vraie stratégie d'immigration de travail. On en a besoin. C'est ce que font de plus en plus les autres pays. Et ce qui va se passer de plus en plus, c'est que puisque l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche sont en train de mettre en place des filières d'immigration de travail.
La Hongrie.
La Hongrie a les mêmes flux d'immigration aujourd'hui
absolument.
Que la France.
Bon.
Puisqu'ils sont en train de faire ça, ben, en fait, si nous, on ne le fait pas, si nous, on reste arc-boutés sur l'idée que ce qu'il faut, c'est zéro immigré, ben, en fait, on va rater et on va se retrouver en concurrence avec des pays européens qui auront organisé ces filières. L'autre chose, et je ne suis pas irénique, il y a plein de problèmes liés à l'immigration, liés aux populations immigrées. D'ailleurs, population immigrée comme la deuxième génération. Et
absolument.
Presque encore plus la deuxième génération qui a des questions identitaires.
Alors, ça fera l'objet d'un autre débat. Parce
je finis.
Que, allez-y,
voilà. Travaillons
rapidement.
À résoudre ces problèmes-là. On sous-investit considérablement cette question-là. Elle est pourtant absolument essentielle.
On refera un débat justement sur cette question, mais on a compris effectivement qu'il fallait des vraies stratégies politiques, des plans pour le débat, pour le pays, pardon. Le débat de midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à mon équipe qui a préparé cette émission. À la réalisation, c'était Riyad Kera, à la programmation musicale Valentine Chedebois, et à la technique aujourd'hui, c'était Fabrice Desmas.